France Info.
Bonsoir à tous, je vais vous faire un aveu, ce soir je ne savais pas comment prendre cette émission. Et oui, parce que vous, derrière votre radio ou devant votre télévision, vous vous diffusez en deux parties. Il y a ceux d'abord qui se réjouissent, qui se disent ça y est, on est en week-end. Et puis ceux qui se désolent, qui se disent les vacances sont pratiquement terminées, il va falloir reprendre le boulot. Eh bien rassurez-vous, quel que soit votre état d'esprit, les informés sont faits pour vous. D'autant que ils ne sont pas quatre ce soir, mais cinq. On refuse du monde chez les informés. C'est comme ça. Bonsoir Éric Scholl.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction de Courrier International. À côté de vous, Aurélie Trouvé. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Économiste, porte-parole de l'association Attaque. Franck Tapiro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes publicitaire, président de l'agence Hémisphère Droit et promoteur de Data Calab. C'est quoi ? Vous avez 10 secondes.
Data Calab est une start-up en brain tech qui mesure les émotions des gens à l'aide d'outils neuroscientifiques. Et là, on part lundi CES de Vegas, le Consumer Electronic Show, représente en avant-première mondiale, c'est bien un peu de cocorico, aux États-Unis, le premier outil de mesure émotionnelle des sites web.
Allez, vive la France, merci.
Vive la France,
Franck Tapiro, Xavier de Namur, vous êtes restaurateur, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et puis pour terminer notre groupe, Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bonsoir à vous.
Bonsoir Olivier.
Et au sommaire ce soir de la politique, ne vous plaignez pas, vous adorez ça. On va effectivement parler, y aurait-il un vent, si ce n'est de panique, au moins de départ à l'Élysée. Nous évoquerons l'avenir d'Alain Juppé, l'ex-champion des Républicains ne fait plus partie de ce parti. Et puis comme je sais que ça vous a manqué, on va également évoquer les gilets jaunes. Le gouvernement a décidé d'adopter la manière forte à l'égard des rond-pointistes. Est-ce de nature à éviter de nouveaux débordements, vous me le direz. Et puis enfin, avant l'acte 8 des gilets jaunes, l'acte 7 de Michel Houellebecq. Sérotonine, son 7e roman, sort aujourd'hui. Vous nous expliquerez pourquoi la folie Houellebecq semble avoir gagné la France. Curieuse ambiance aujourd'hui à l'Élysée où avait lieu le premier conseil des ministres de l'année. Curieuse ambiance parce qu'on a appris le départ d'un homme important, Sylvain Faure, patron de la communication présidentielle, rédacteur des discours d'Emmanuel Macron. Stéphane Séjourné, un autre proche, va prendre en charge la campagne des La République en marche pour les européennes. Bref, il quitte l'Élysée lui aussi et d'autres départs seraient dans les tuyaux, croient savoir les gazettes. Alors vous allez nous dire si c'est grave, mais en tout cas cela réjouit évidemment les opposants de La République En Marche. Écoutez Guillaume Larrivé, il est député Les Républicains, il était l'invité de nos confrères d'Europe 1 ce matin.
Je constate que les conseillers d'Emmanuel Macron, au bout de 17 mois, ils n'en peuvent plus, ils se tirent. Pardon d'être un peu direct, mais je trouve que pour des gens qui nous ont fait à ce point la leçon, qui nous ont expliqué qu'ils étaient les meilleurs de la Terre, qu'avant eux, il n'y avait que des crétins et des incapables, je trouve quand même qu'ils tiennent pas véritablement la distance. Je me permets de le dire tout à fait sereinement, mais de manière un petit peu directe, parce qu'ils sont tellement prétentieux dans la manière dont ils prétendent incarner le beau, le bien, la vertu, je constate voilà qu'ils sont un peu faiblards au bout de 17 mois. Le prince lui-même, Emmanuel Macron, ferait bien de s'interroger sur la gouvernance erratique qui le caractérise.
Ouais, le secrétaire général des Républicains ce matin sur Europe 1. Ces départs, ça donne quoi ? Pas une un très bon signal politique tout de même, Aurélie Trouvé ?
Bah, surtout, ça vient aussi après des départs de poids lourds du gouvernement. Je pense à Gérard Collomb, je pense à Nicolas Hulot. Alors moi, ça me fait penser à une expression qui date du Moyen-Âge. C'est-à-dire que les rats quittent le navire. Quand on sent que la grosse tempête va arriver, on quitte le navire. Et je dirais plus, à mon avis, ça traduit surtout une grave crise politique de ce gouvernement qui a été embourbé dans l'affaire d'abord Benalla, qui a remis, Emmanuel Macron et son équipe devaient renouveler la politique, se présenter comme le nouveau monde. Et finalement, avec l'affaire Benalla, il nous montre quand même de bien tristes pratiques politiques qui rappellent plutôt l'ancien monde, en tout cas le plus triste qu'on ait pu voir parmi les épisodes tristes de la République française. Puis deuxièmement, les gilets jaunes qui remettent en cause, au-delà des pratiques politiques, la politique sociale et économique de ce gouvernement président des riches, quoi. Hein, c'est ça qui est derrière.
Pour vous, ça donne donc vraiment une mauvaise image, quoi.
C'est surtout pour moi la traduction d'une grave crise politique et d'un gouvernement qui aujourd'hui n'arrive pas à répondre à cette contestation sociale et qui finalement ne tient pas ne répond pas à l'espoir qu'il avait instigé à travers le renouvellement de la politique, etc.
J'entends ce que vous dites. Vous altérez. Est-ce que c'est si grave que ça, des conseillers qui changent, qui vont être remplacés? Est-ce que ça ne fait pas partie de la vie normale, de la démocratie?
Si, de même qu'il y a un remaniement. Et d'ailleurs, ça devrait presque plus nous intéresser qu'un remaniement, parce que sous la Ve République, des conseillers élyséens, c'est plus important que des ministres. Donc, il faut plus s'y intéresser, et on a raison d'en parler. Sylvain Faure, qui était le grand chef de la communication présidentielle, qui avant écrivait les discours, son départ n'est absolument pas anodin. Surtout que dans l'équilibre, dans l'alchimie politique de Macron, c'était plutôt son cerveau droit, et Emmanuel Macron a également des cerveaux gauches. Bah, il invoque des raisons personnelles. Je pense aussi qu'à l'Élysée, les gens, honnêtement, sont fourbus. C'est un rythme, le cabinet, on peut tous se contasser, c'est un rythme qui est épuisant. Voilà, il y a ces raisons-là, évidemment. Mais à la limite, pourquoi pas, un remaniement, c'est fait pour donner une nouvelle orientation. Est-ce qu'à l'Élysée, ce serait pas le moment de placer des gens qui sont un peu plus en prise, par exemple, avec ce que vivent les Français, avec la réalité? On sait très bien que autour d'Emmanuel Macron, et pas par hasard, parce qu'il les a nommés lui-même, il y a des gens qui sont technocrates. Mais technocrates dans le sens vraiment intellectuel du terme. Ils viennent de cette formation-là, ils sont dans cet état d'esprit-là. Et c'est pour ça que la crise des Gilets jaunes, ils ne l'ont pas vu venir. Pas du tout. Et si Emmanuel Macron peut saisir l'occasion pour les remplacer par des gens qui peut-être sauraient capter un peu plus ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe un peu loin de Paris, un peu plus loin du périphérique, peut-être que c'est pas une mauvaise nouvelle finalement que les conseillers de l'Élysée changent.
Xavier Denamur, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Cuisine, on peut changer.
Alors, nous, c'est un métier où, effectivement, Olivier Lagarde, vous avez raison, nous avons un métier où, nous, ça change pas mal. Il y a pas mal de turnover. Là, on est quand même à l'Élysée, effectivement, ce que dit Louis, il a raison. C'est-à-dire que Louis, à l'Élysée, c'est là où se décide tout dans ce pays, malheureusement. C'est la verticalité du pouvoir actuel. Mais en même temps, ce que dit Aurélie, elle n'a pas tort. Parce que quelque part, quand on regarde les choses en face, il a remplacé Hulot par De Rugy. C'est un second couteau, c'est pas un choix top. Il a remplacé Colomb par Castaner, qui a l'air de pas casser des briques non plus. Il a remplacé Bayrou par Belloubet. Bon, excusez-moi, mais je trouve que pour l'instant, c'est plutôt des seconds choix. C'est pas des, donc est-ce que le fait de changer, à lui qui a tiré avec La République en Marche, avec son truc qu'il est le meilleur, etc., jupitérien, les grands talents, là, ça casse pas des briques. Donc le signal n'est pas très très bon. J'aimerais
On va continuer à parler de.
J'aimerais rêver quand même.
Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon? Mais je vous donne la parole, Xavier Denamur. Mais vous connaissez. C'est la maison, il est 20h10 sur France Info. C'est l'heure de l'info avec Augustin Rivet.
Des patrouilles supplémentaires sur les plages du Nord et dans les ports, c'est la principale disposition du plan d'action franco-britannique annoncé ce soir par le ministère de l'Intérieur. Plan pour lutter contre la traversée de la Manche par des migrants. Elle a été tentée 504 fois l'an dernier, majoritairement par des ressortissants iraniens. Le ministre Christophe Castaner a prévu de se rendre à Londres ce mois-ci. L'impôt sur les successions ne variera pas. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, l'affirme aujourd'hui. Cette proposition du think tank Terra Nova est rejetée. Une hausse de 25% de ces taxes aurait pu servir à compenser la suppression de l'impôt sur la fortune. Il n'en est visiblement pas question. Le sud de la Thaïlande, paralysé en attendant le passage dans la nuit de la tempête Pabuk. Il n'y a plus un seul ferry en circulation dans le golfe de Thaïlande. Les trois aéroports du sud du pays sont fermés, notamment celui de Phuket, une région très fréquentée par les touristes à cette période de l'année. Des abris ont été installés sur certaines îles par les autorités locales. La porte-parole de la Maison-Blanche prévient que Donald Trump ne reculera pas, mais la nouvelle présidente de la Chambre des représentants a déjà fait savoir que l'idée du mur à la frontière mexicaine était selon elle inhumaine. C'est dans ce contexte que se déroule ce soir la réunion entre le président des États-Unis et les dirigeants du Congrès. Objectif compliqué, trouver un accord budgétaire pour mettre fin au shutdown.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Serait-ce le grand ménage d'hiver à l'Élysée avec une valse à un seul temps des conseillers? On parlait de Sylvain Faure, mais Ismaël Emelien, Patrice Trosda et même Alexis Kohler seraient sur la sellette. Ça fait pas très bonne impression, Franck Tapiro.
Pas tellement d'accord en fait avec ça. Moi, je pense que c'est ni une crise politique ni une mauvaise impression. C'est un problème de casting. Et je pense que ça
le casting était mauvais.
Non, il était excellent, mais pour la conquête. Et on l'a vécu déjà depuis 30 ou 40 ans. On a vu énormément d'équipes de conquête qui ne sont pas forcément des équipes de combat. C'est deux dialectiques et deux énergies complètement différentes. Pour conquérir le pouvoir, il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça. Et cette équipe-là, on l'a vu, en deux ans, partir de rien. Il arrive à l'Élysée de cette façon-là, chapeau. Donc toute cette équipe, ils sont juste brillantissimes. Un. Deux, ce qui se passe depuis quelques temps, évidemment, ce ne sont pas eux qui l'ont provoqué. Ils l'ont subi. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, malheureusement, quand on est dans la conquête, il y a parfois des choses qu'on ne voit pas. Parce que la réalité, quand on arrive à l'Élysée, elle est bassement concrète, matérielle, proche, et on n'a pas le temps de réaction. Il faut même anticiper en permanence ce qui se passe. Et malheureusement, quand on est dans la conquête, on est dans une vision, on est un peu loin, on est un peu haut. Et c'est pas une question de talent, puisqu'ils ont un immense talent. Mais le combat, c'est pas ça. Le combat, c'est être au plus proche des gens, sentir les coups, et être dans une forme de riposte permanente et comprendre ce qui est en train de se passer. Et quand on n'a pas cette dialectique-là, c'est un autre métier. Et donc, c'est vrai que rarement on a vu une équipe de conquête qui devient une équipe de combat. Voilà pourquoi je pense que ces changements, c'est pas à changer pour des gens meilleurs, ça n'a rien à voir. Ils sont très bons.
Ils ont plus leur place.
Pour des gens qui ont l'habitude du combat, et le combat en politique, c'est différent.
Il y avait un problème de casting ?
Je ne crois pas que ce soit un problème de casting. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire cette histoire de conquête et ensuite d'exercice du pouvoir. Néanmoins, donc c'est assez logique qu'il y ait des changements. Néanmoins, quand on regarde, quand on connaît l'intérieur du fonctionnement de cabinet, il y a deux types d'entourage dans un cabinet. Il y a les très proches, ouais, qui normalement suivent tout le temps, mais tout le temps jusqu'au bout, la personne, c'est-à-dire Emmanuel Macron en l'occurrence. Et puis il y a les autres qui sont des experts, des technocrates qui apportent leur expertise et qui, au fond, au bout de 2-3 ans, bah, retournent dans leurs administrations. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt les très proches qui s'en vont. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir en retrouver des nouveaux. Il va falloir retrouver des gens qui ont la même confiance, qui soient capables de parler au président de la République, capables de lui dire « là, tu es en train de te tromper, là, c'est peut-être une erreur ». Est-ce qu'ils auront la capacité de faire ça ? Alors que ceux qui partent étaient là depuis 4-5 ans, c'est pas très sûr. Et donc, d'une certaine façon, ça montre que l'année qui commence pour Emmanuel Macron commence dans un état d'esprit de fragilisation quand même, d'autant plus qu'il va falloir facilement 3 à 6 mois pour régulariser, pour retrouver un équilibre au sein de ce cabinet. Ça veut dire que c'est du temps qui va être un peu perdu dans l'exercice du pouvoir.
Aurélie Trouvé, c'est un remaniement qui ne dit pas son nom.
Sans doute, mais moi je voudrais rebondir sur l'histoire de cette petite équipe qu'il avait formée et qui se retrouvait en tant que conseiller très proche à l'Élysée, parce qu'il est vrai qu'ils ont tous un casting assez similaire, quoi. C'est-à-dire que beaucoup sont passés par l'ENA, par les grandes écoles, la plupart ont été des grands cadres du privé, hein, certains hauts fonctionnaires, mais en tout cas et surtout ce sont
trop similaires, tous le même profil,
et pour la plupart des gagnants du néolibéralisme économique, si je peux dire. Hein. C'est-à-dire que ça correspond à la politique de Macron, c'est-à-dire vive le néolibéralisme économique et il y a des gagnants et nous on en fait partie. Et je pense que c'est justement cette grande imposture, enfin disons que le voile se déchire, quoi, et que là, face à un mouvement comme les Gilets jaunes, mais aussi face au scandale qu'il y a eu autour de l'affaire Benalla, et ben c'est une équipe qui est incapable de répondre à la contestation sociale, à la colère sociale qui est en train de s'exprimer.
Xavier de Namur, ça veut dire qu'il faut s'attendre à un changement de politique ?
Alors moi, ce que je pense, ça fait depuis très longtemps que je pense qu'il faudrait. Faudrait radicalement un changement de politique depuis le début.
Ah non, mais je ne demande pas si vous le souhaitez.
Vous me demandez mon avis, je donne mon avis. Moi, ce que je vois juste, c'est que un président qui se dit qu'il a parlé de la Startup Nation, il est dans une crise de management, c'est-à-dire qu'on est dans une boîte pour que ça fonctionne. Il faut qu'on ait une cohésion. Quand ça commence à être le bordel dans votre boîte et que vous arrivez à mal recruter et tout, ça va être compliqué de diriger, de donner une ligne de conduite et un endroit vers où aller. Et c'est ça aujourd'hui, à mon avis, qu'il y a à l'Élysée. Donc il serait temps peut-être de se reposer la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont décidé, même s'ils ont été élus sur leur programme ne correspond pas à ce qu'attendait la nation et la France.
Je suis pas du tout d'accord, je pense que c'est... C'est pas une question de programme, pas du tout, au contraire, la France attendait ce changement et depuis des années et des années. C'est une question de méthode et de communication, ça n'a absolument rien à voir. Il ne doit surtout pas changer de politique et je peux vous dire, je suis convaincu qu'il changera jamais de politique et il doit pas le faire. Pourquoi ? Dans un quinquennat où vous changez de politique, vous êtes mort. Il doit changer de méthode et de communication, c'est différent. Être plus pédagogue, comme il l'a été pendant la campagne. Il a été formidablement pédagogue. Il l'est moins depuis quelques temps. Plus expliqué. Aller au-devant plutôt que de subir. Et la communication, on l'a vu ces derniers temps, c'est qu'il y a des mots, des phrases, des contextes qui, à un moment, s'utilisent moins. Encore une fois, quand on est aux affaires que quand on est en campagne. Donc c'est une question d'adaptation. Je pense qu'il ne changera en rien sa politique et ses mesures et ses changements, sa transformation. Rien du tout. Au contraire, il va essayer d'accélérer. Mais il va changer la méthode. C'est une question de méthode et de communication.
Alors on a compris.
Mais je suis pas du tout d'accord là pour le coup avec Montagnier.
Vous êtes parfaitement loin.
C'est pas une question de pédagogie. Arrêtez avec la pédagogie. Ça, c'est un truc que les macronistes nous bassinent avec ça depuis 2 mois.
C'est le
fameux problème de... Oui, je sais. Alors, les communicants, qu'est-ce qu'ils font? Quand un homme politique a du mal, ils vont le voir, et puis ils lui disent, ah, mais t'expliques mal, c'est un problème de pédagogie. Mais pas du tout. Les Français ont très bien compris. Au contraire, c'est ça le problème d'Emmanuel Macron. C'est que le malentendu a été levé. Que, ils ont compris que son programme allait effectivement dans la direction du néolibéralisme. Et surtout, il lui faisait confiance pour réformer. Mais il réalise que les réformes ne leur profitent pas. Et c'est ça le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est pas du tout une question de pédagogie. Au contraire, faut pas prendre les gens pour des abrutis.
J'ai pas vu quelqu'un qui vend des Gilets jaunes.
Alors, si je peux me permettre, si
vous ne pouvez pas vous permettre, on avance un petit peu dans le débat. Et j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet, s'il vous plaît, messieurs.
Pardon.
Allez, deuxième sujet de cette soirée. On n'aime pas les mauvais payeurs chez les Républicains. Du coup, Zou, dehors, viré, Alain Juppé, qui ne payait plus sa cotisation depuis 2 ans au parti. Alors, tout cela n'est évidemment qu'un prétexte qui vient acter un divorce déjà largement consommé entre Juppé et Wauquiez. Du côté de La République En Marche, écoutez, on se frotte les mains d'une possible belle prise. Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, est un invité de France Info ce matin. Écoutez-le.
Si vous me posez la question, est-ce que je me reconnais dans les discours d'Alain Juppé? Est-ce que les discours d'Alain Juppé sont compatibles avec les discours que notre majorité porte? Ben évidemment qu'il y a une compatibilité entre les discours que nous portons. Évidemment qu'il y a une compatibilité dans la vision qu'on a. Est-ce que c'est la famille? Je ne saurais pas vous répondre. La famille, vous savez, il y a celle qu'on choisit, ça se construit, ça demande
un peu
de temps.
Si ce n'est pas la famille, c'est un ami en tout cas.
Ah, c'est certain. Si ça peut être la famille, mais c'est certain que c'est un ami.
Eric Scholl,
on a l'impression que, mais j'oublie, espère avoir Alain Juppé pour soutenir sa candidature à la mairie de Paris. On les voit déjà en train de faire un meeting ensemble. Non, plus sérieusement, en fait, bon, on le sait depuis longtemps que le divorce a été consommé. Donc, je dirais presque, il n'y a pas de nouvelles dans ce qui vient d'être annoncé. Et puis d'ailleurs, la façon dont c'est annoncé, c'est un non-renouvellement. L'année dernière, il a failli partir, Alain Juppé. Il a vraiment hésité très fortement. C'était au moment où Alain Wauquiez a fait a fait cette sortie devant une école.
Pas Alain Wauquiez,
pardon, Laurent Wauquiez, merci. Laurent Wauquiez a fait cette sortie dans une école de commerce à Lyon, et il y a des enregistrements qui ont été confutés, où on a entendu. Ouais. Bon, et à ce moment-là, Alain Juppé avait été fortement choqué, et il a vraiment failli partir, il a été retenu par son entourage.
Alors,
on savait qu'il allait partir.
Non événement, ou au contraire, événement politique d'importance, on en débat dans les informés. Mais d'abord, 20h20, c'est l'heure de l'info, Augustin arrivé.
4000 forces mobiles, une cinquantaine de compagnies de CRS, voilà le dispositif policier déployé demain dans tout le pays pour l'acte 8 des Gilets jaunes. À Paris, 2 itinéraires ont été déclarés en préfecture. Tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a reproché aux Gilets jaunes qui continueraient de se mobiliser d'être des agitateurs souhaitant l'insurrection. Elisabeth Borne recevait de son côté les sociétés autoroutières cet après-midi. La ministre des Transports sollicitée après les dégradations constatées à différents péages. Également au sujet des opérations péage gratuit menées par ces Gilets jaunes. À la sortie, pas de communication sur d'éventuelles indemnisations, mais elle dit avoir demandé à ces entreprises de faire des propositions qui tiennent compte des attentes fortes des Français sur le pouvoir d'achat. L'incident survenu sur un porte-conteneur mercredi aux Pays-Bas, ces 270 conteneurs passés par-dessus bord, eh bien, c'est maintenant l'objet d'une enquête ouverte aujourd'hui et confiée à la police maritime. Ceci pour comprendre les responsabilités de chacun. Seuls 30 de ces conteneurs ont été retrouvés échoués sur des plages. Les organisations écologistes craignent une pollution catastrophique pour l'écosystème. Des violences interethniques au Mali, 37 morts cette semaine entre Peul et Dogon dans un village du centre du pays. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, s'est rendu sur place aujourd'hui. La haine s'empare également du Burkina Faso voisin avec 46 morts depuis lundi d'après les autorités. L'aventure de la Coupe de France de football reprend ce soir avec les 32e de finale. 2 rencontres pour démarrer le week-end. Il y aura le déplacement de Strasbourg à Grenoble et la réception de Châteauroux à Nantes. Coup d'envoi des 2 matchs à 20h55.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
En politique, on n'est jamais mort, regardez-moi. Ainsi parlait Alain Juppé, ce qui lui valut d'ailleurs pour la phrase le prix de l'humour politique. A-t-on un avenir politique quand on a 73 ans? Vous disiez en plaisantant, Éric Scholl, on a l'impression que Mounir Majoubi attend le soutien d'Alain Juppé pour les municipales, mais avant les municipales, il y a les européennes. Louis Osalter, est-ce que Alain Juppé ne pourrait pas avoir envie de jouer un rôle prépondérant dans ces élections européennes, peut-être de mener une liste avec La République En Marche.
Si, sans doute, mais est-ce que les Français l'attendent? Je croyais qu'Alain Juppé, c'était l'ancien monde, que maintenant il y avait un nouveau monde, qu'à 73 ans, on était trop vieux pour le nouveau monde. Enfin, honnêtement, je pense pas qu'il apporte...
Oh, je vous sens plein d'ironie. Bon,
oui, non, mais surtout, il y a quand même quelque chose de très important. Là, on traite une information, bon, ça n'a pas fait la une de tous les journaux, le fait qu'Alain Juppé soit plus adhérent des Républicains. Et pourtant, les Républicains, qu'est-ce que c'est? C'est le descendant de l'UMP. Pour qui a été créé l'UMP par Jacques Chirac? Pour Alain Juppé, c'était le parti qui lui servait sur un plateau dont Alain Juppé a pris la présidence à sa création en 2002 pour servir ses futures ambitions. C'est le fondateur de l'UMP. Donc normalement, ça devrait être un séisme politique. Or, pour moi, c'est un clapotis. Effectivement, c'est un non-événement, c'est un clapotis politique. Pourquoi? Ça donne une idée de ce que sont devenus les Républicains. Le vrai problème, c'est que la droite n'a plus de boussole, elle ne sait plus où elle habite. Donc les Républicains, que quelqu'un parte, que quelqu'un s'en aille, ce serait Alain Juppé, ce serait quelqu'un d'autre, ça n'intéresse plus grand monde. Et le vrai problème, ce ne sont pas les personnes, je pense, ce sont les idées. La droite, elle est complètement perdue, elle est dans l'opposition, donc pourtant elle aura le temps de bâtir un socle, d'essayer de réfléchir à une alternative à Emmanuel Macron, et c'est pas du tout ce qu'elle fait, elle ne sait plus où elle habite, il n'y a plus de boussole, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Alain Juppé, qui n'est plus membre du parti qu'il a fondé, c'est un non-événement politique.
Aurélie Trouvé, chez Attac, ça vous intéresse le sort d'Alain Juppé, ou c'est un clapotis?
Je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que ça fait quand même un moment qu'il s'éloigne des Républicains, c'est juste qu'il paye plus sa cotisation, en gros. Bon, non, ce qui est intéressant, c'est ce que ça dit de la stratégie de Macron, parce que manifestement, il est quand même, ils aimeraient bien l'attirer pour la tête de liste européenne. De mon point de vue, c'est que ça veut dire que ça clarifie la stratégie d'Emmanuel Macron à droite toute, et en plus que c'est très très loin effectivement du Nouveau Monde. C'est quand même, c'était le président de, voilà, le président, pardon, un ministre sous Chirac,
le premier ministre de 95.
Voilà, sous Chirac puis Sarkozy. Puis alors, je vais vous dire, en tant que responsable d'une organisation du mouvement social, je rigole un peu qu'on ait Juppé à En Marche avec Macron. Quand même, ils sont très très forts pour avoir des mouvements sociaux puissants face à eux, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même l'homme de 95.
Entre
Macron avec les Gilets jaunes et Juppé, le mouvement de 95, on a les deux plus gros mouvements sociaux depuis 30 ans. Alors allez-y tous les deux, on va s'amuser côté mouvements sociaux.
Ça vous fait rigoler également, Xavier Denamur?
Moi, ça me fait marrer. Alors moi, tout à l'heure, j'étais...
Mais je vous sens de bonne humeur, de toute manière, depuis le début de cette émission.
C'est la nouvelle année, je suis de bonne humeur, ça peut pas être pire que 2018, ça peut être que mieux. Donc, tout à l'heure, j'étais au bistrot, et moi, c'est un peu le bistrot, c'est un peu mon parlement à moi, tu sais. Et donc, j'étais au bistrot, et il y avait des Belges. J'ai dit, ah bah tiens, je vais sur les informer, on va parler de Juppé. Et les Belges, ils me disent, si il existe encore celui-là? Alors, c'était la réflexion, c'est-à-dire que...
Oui, enfin, les Belges, ils ont pas de gouvernement.
Ils ont pas de gouvernement et tout, mais en tout cas, dit de point de vue de l'extérieur, Juppé, il n'existe pas. Je rappelle quand même que la mairie de Bordeaux, c'est ce qu'il a fait de mieux, qui est bien tenu, qui est propre et qui est nickel, c'est ce qu'il a fait de mieux. Bon, il y a eu un maire qui s'appelait Chabandelmas, je crois, qui est resté jusqu'à 80 balais, jusqu'en 95, d'ailleurs, quand lui, il est passé, qui a foutu le bordel avec l'histoire des retraites. Donc, je pense qu'il est temps que la France, on change un peu, on a besoin un peu de nouvelles tronches, c'est le cas de le dire, et puis de gens qui sont vraiment ancrés dans le terrain.
Franck Tapiro.
Moi, je trouve que ça donne surtout un signe sur le vrai visage de la droite aujourd'hui, qui n'est plus elle-même depuis plus de 10 ans, et qui a été à une seule école, malheureusement, depuis 10 ans, c'est l'école buissonnière, avec Patrick Buisson, qui a fait ressembler...
Oh là là, vous l'aviez préparé avant, ça.
Ça fait 10 ans que je le dis.
Ouais.
Et bien avant que ça... Alors, vous pouvez vérifier.
Oui, oui. Vous n'avez pas gardé pour les informer.
Au grand gueule, en 2005, j'ai même la date encore. Pourquoi l'école buissonnière, c'est pas juste un jeu de mots, c'est vrai. C'était le seul penseur de la droite sarkozienne après la victoire de 2007. Et malheureusement, moi qui ai bien connu Nicolas Sarkozy, la pensée politique de Sarkozy, tout d'un coup j'ai vu l'aliénation, parce que c'était vraiment une aliénation. Et tout d'un coup, quelqu'un qui a fait ressembler la droite à un Front National made in Taïwan. Et depuis 10 ans, voilà pourquoi est-ce que la droite se perd. Parce qu'elle veut essayer de ressembler à l'extrême droite, mais elle n'est pas l'extrême droite. Elle a des valeurs qui n'ont absolument rien à voir avec l'extrême droite. Et elle a un Wauquiez qui joue et tantôt à l'extrême droite et tantôt sur la bordure. Patrick Buisson, tout le monde est à la béquée de Patrick Buisson depuis 10 ans, disons-le, tous à droite forte. Ils allaient tous les matins prendre l'information de ce qu'il fallait dire auprès de Patrick Buisson.
Vous direz que Patrick Buisson n'existe pas beaucoup plus.
Mais c'est pas vrai, il a existé énormément et beaucoup trop. Ça a été vraiment le Rasputin de la droite pendant des années. Il a réussi à, je vous dis, retourner complètement à la droite sur ses fondamentaux. Voilà pourquoi la droite n'est plus rien aujourd'hui. Et que de voir Juppé quitter, c'est une démission par défaut. Alors, c'est facile, au lieu de dire je démissionne, on paye pas la cotisation. C'est tout simplement parce que ça fait longtemps. C'est pas seulement il n'adhère plus en termes financiers, il n'adhère plus aux valeurs de la droite depuis des années. Donc moi, ce que ça me dit, c'est, gens de droite, réveillez-vous, virez-moi cette école buissonnière et revenons à l'école de la République, parce que ça commence vraiment à devenir inquiétant.
C'est une crise de la droite?
Bien sûr, parce qu'effectivement, la droite avait pendant des années réussi à fédérer plusieurs courants. Bien aujourd'hui, sûr. Il n'y en a plus qu'un, c'est celui de Laurent Wauquiez. Or, on voit que Laurent Wauquiez, depuis qu'il a pris la tête des Républicains il y a 2 ans, n'a fait qu'échouer. C'est un échec permanent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait, on a l'impression qu'il fait du Marine Le Pen. Si vous prenez, je vous disais qu'il y a un an. Alain Juppé a failli partir. Et depuis, en fait, on voit que Wauquiez a continué à chuter. Il chante dans les sondages, mais pas que dans les sondages. Il a fait toutes ses erreurs, les gilets jaunes.
Les gilets jaunes, on va en parler dans quelques instants.
Il y a une certaine logique.
Les informés, vous restez bien en place. On va écouter la météo, les infos. On se retrouve dans 5 petites minutes pour la deuxième partie de notre émission.
International.
Le Brexit. Le texte négocié entre Londres et Bruxelles va être soumis au Parlement britannique avec toutes les incertitudes sur les conséquences du vote.
Culture.
Cela n'a évidemment rien d'une surprise. À disparition médiatique, vente stratosphérique, Mon pays, c'est l'amour de Johnny Hallyday, ce sont finalement près d'1,5 million de ventes.
Pour l'info, 24 heures sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info. France Info Météo. Avec les agences meilleurtaux.com, crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés partout en France.
Jean-Pierre Hameau.
Petit à petit, la couleur du ciel va changer ce week-end. Demain samedi, la couverture nuageuse va s'épaissir et recouvrir les régions allant des frontières du Nord au Massif central, en passant par l'Île-de-France et la région centre, mais aussi du Lyonnais à la Bourgogne-Franche-Comté. Prévoyez de faibles chutes de neige au-dessus de 300 mètres d'altitude du côté de l'Alsace et de la Lorraine. Le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages inoffensifs de la Normandie à la Bretagne en redescendant vers les pays de Loire. En revanche, vous conserverez un bon ensoleillement de la Nouvelle-Aquitaine à la région PACA, en passant par le Languedoc-Roussillon, sans oublier l'île de Beauté. En fin de nuit, les gelées seront quasi généralisées, excepté près de la Méditerranée. Les maximales, quant à elles, seront stationnaires. Dimanche, les nuages vont gagner du terrain. Seul le pourtour méditerranéen et le massif alpin seront épargnés en conservant un bon ensoleillement. De faibles chutes de neige se produiront encore des frontières du nord-est au massif jurassien.
Les prévisions météo signées Jean-Pierre Hameau. Vous écoutez France Info, il est 20h30.
France Info.
2 points, ouvrez l'info.
Et l'info, c'est avec Julien Lenglet. Bonsoir Julien.
Bonsoir Olivier. Tandis que le gouvernement affiche sa fermeté à l'égard de ceux qui voudraient manifester, certains gilets jaunes appellent à une nouvelle mobilisation demain, en région comme à Paris, sans craindre les amendes, comme au rond-point Cacahuète entre Montargis et Amilly dans le Loiret, où s'est rendu Farida Noir pour France Info.
On bloque un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Gentiment, voilà.
Et avec le sourire, Chantal et les autres gilets jaunes font partie des irréductibles, ceux qui tiennent encore leur rond-point en France. Aujourd'hui, ils ne sont pas là pour embêter les automobilistes, ils leur proposent même des petits bonbons. De la douceur enrobée de détermination, assure Gérard, ici depuis le mois de novembre.
Et on tient. Tant qu'on n'aura pas obtenu ce qu'on demande, on lâchera rien. Donc aujourd'hui, pour moi, l'urgence, c'est l'urgence sociale. Je suis là pour ça, moi.
Sur une palette, un drapeau breton, Jérémy est venu de Rennes avec 2 autres gilets jaunes. Là-bas, ils ont préféré brûler leur QG plutôt que de le voir détruire par les forces de l'ordre. Ils sont venus rendre visite à leurs amis du rond-point Cacahuète pour parler stratégie.
Prendre des plans d'action, l'union fera la force, donc il ne faut pas qu'on se lâche.
Ouais, parce qu'on ne va pas dire qu'il y en a qui commencent à lâcher, mais ils commencent à perdre un petit peu la force et là, ça montre la fraternité qu'il peut y avoir en fait.
Demain pour l'acte 8, certains resteront ici, d'autres iront à Paris. Sur un drap blanc tendu accroché à une tente, une inscription en orange, les gilets jaunes sont une chance. Dominique veut croire que le mouvement perdurera.
On ne lâchera pas l'affaire parce qu'on nous a donné des miettes, des pommes pourries, du pain moisi, et on n'en veut pas. Je pense que M. Macron, il a vraiment du souci à se faire parce que de toute façon, nous sommes le peuple, nous sommes l'État et on représente la France.
Voilà, j'ajoute qu'une 50aine de compagnies de CRS et d'escadrons de gendarmes mobiles seront mobilisés demain, environ 4000 forces de l'ordre. Un cap, un avertissement et un mea culpa. Le chef de l'État a présidé ce matin le premier conseil des ministres de l'année et affiché, selon le compte-rendu, sa détermination à poursuivre les réformes, aller plus loin, plus fort, plus radicalement, a dit le président. À la veille donc d'une tentative de remobilisation des gilets jaunes, Emmanuel Macron a aussi dénoncé les agitateurs qui souhaitent renverser le gouvernement et concéder également quelques errements envers les Français qui n'ont pas vu leur situation changer. La France a lancé aujourd'hui un plan d'action pour lutter contre les traversées de la Manche par des migrants. Il consiste notamment à renforcer les patrouilles et la surveillance du littoral nord et des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Un plan d'action franco-britannique est par ailleurs en train d'être mis sur pied. Il sera présenté lors du déplacement prochain du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à Londres. L'an dernier, 504 migrants, principalement des Iraniens, ont tenté cette dangereuse traversée de la Manche. À 85 jours du Brexit, Theresa May est toujours en difficulté. Le débat doit reprendre le 9 janvier. Le vote, ce sera dans la semaine du 14, mais la première ministre britannique n'est toujours pas certaine d'obtenir la majorité. 20h33 sur France Info, la deuxième partie des informés avec Olivier Delagarde.
Les informés, Olivier Delagarde.
Et toujours en compagnie d'Éric Jolle de Courrier International, d'Aurélie Trouvé de l'association Attaque, de Franck Tapiro, publicitaire communicant, de Xavier Denamur, restaurateur, et de Louis Osalter de Marianne. Alors venons-en à notre feuilleton gilet jaune. Oh. Vous avez suivi ça, le gouvernement a donc décidé d'employer la manière forte. Les ordres à la police et à la gendarmerie sont extrêmement clairs. Plus de clémence à l'égard de ceux qui bloquent encore une centaine de ronds-points en France, et encore plus de fermeté contre ceux qui manifestent sans autorisation. On a suivi l'épisode Éric Drouet. Alors, d'autant que le gouvernement estime avoir accordé beaucoup aux gilets jaunes lors des annonces du 10 décembre dernier. Écoutez Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
Depuis ces annonces, le mouvement dit des gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection. Et au fond, renverser le gouvernement.
Xavier Denamur, après le carnet de chèques, la matraque, la tactique vous paraît bonne de la part du gouvernement ?
Alors, je suis pas un technicien des forces de l'ordre, etc.
Dites-nous ce que vous en pensez.
Ce que j'en pense, c'est que si on veut que la police soit aux ordres de l'État et qu'il y ait un État de droit, je trouve ça normal. C'est-à-dire que on doit faire respecter le droit. Et aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas avec Macron, il a donné quelques pistes, il a donné quelques miettes.
Alors, peut-être
insuffisantes.
À mon goût,
assez insuffisantes. Mais au moins, il a dit qu'il allait lancer un débat, etc. La chose, c'est que, on parle de désordre. Mais dans les réformes qu'a fait Macron, c'est là, s'il veut retrouver de l'ordre, dans les réformes qu'il a fait, qu'elles soient fiscales, il y a du désordre fiscal, moi je trouve. Moi je suis un patron qui paye de l'ISF, qui gagne de l'argent, qui font partie des riches. Je trouve que c'est assez bordélique comment c'est fait. Il y a du désordre, par exemple, pour les lycéens, etc. On a vu que le Parcoursup, on n'y comprend pas grand chose. Il y a un peu de désordre et beaucoup de désordre dans la justice, où les gens, ils ont plus le tribunal d'instance, etc. Donc, c'est pas très clair ce qu'il fait. Donc si on veut avoir un pays qui se remet en ordre de marche, c'est le cas de le dire, hein, sans jeu de mots, eh ben, il faudrait avoir qu'ils sachent un peu dans leur tête et dans ce qu'ils font, ce soit un peu clair et que ce soit bien expliqué. Donc pour moi, le truc de taper la matraque, on n'a pas un État en France, on n'est pas dans une dictature, on n'est pas quand même dans un État où les flics, ils tapent sur tout le monde. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, moi, même dans la rue Vieille du Temple, quand il y a eu des manifestants à un moment. Alors, c'est vrai que je suis allé voir les CRS, je leur ai dit, attention, ceux-là, ils ont rien fait, rentrez pas dedans. Parce que, à un moment, on tape tout le monde, on tape un peu dans le tout. Mais on n'est pas dans un État policier, on n'est pas dans une
dictature. C'est pas une dictature. Or, il est trouvé.
Je pense qu'on n'a jamais résolu une crise politique d'ampleur telle qu'elle existe aujourd'hui par la répression, par la manière forte, en tout cas dans une démocratie. Et aujourd'hui, la colère sociale, elle est vaste. Elle n'est pas seulement celle des gilets jaunes, hein, elle est aussi celle des lycéens, elle est celle des blouses blanches depuis un moment quand même, elle est celle des cheminots et celle qu'il y a eu contre la loi travail. Enfin, ça fait quand même beaucoup en moins de 2 ans pour ce gouvernement.
Les annonces du 10 décembre, alors, sont des miettes.
C'est même plus, pour moi, c'est de l'enfumage. Hein. Je vais vous donner le budget les décisions du budget 2019 en plein mouvement des gilets jaunes. D'un côté, les retraites et les minima sociaux vont diminuer en monnaie constante, d'accord? Il y a une vaste baisse du budget, cette fois-ci très claire, hein, en valeur nominale sur les hôpitaux, sur la protection sociale, suppression de postes, notamment dans la fonction publique. Et puis de l'autre côté, on préserve entièrement les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux plus riches depuis un an et quelques. On préserve tous les acquis qu'ont eu les plus riches depuis le début de ce gouvernement, donc notamment le maintien de la suppression de l'ISF, le maintien notamment de la suppression de la flat tax hein, qui s'appliquait sur les évadés, les expatriés fiscaux. Donc pendant qu'on nous pond des grandes phrases sur la lutte contre l'évasion fiscale, en fait, on vient de décider de quelque chose qui va amplifier l'évasion fiscale. Donc c'est de l'enfumage. Il n'y a pas aujourd'hui de partage des richesses tel qu'il est demandé par les Gilets jaunes. Au contraire, le budget 2019 va encore amplifier les inégalités.
Louis Osalter.
Je trouve que ce qu'a dit Benjamin Griveaux, ça traduit en fait une sorte de retour à l'analyse que faisait le gouvernement au début du mouvement. Vous vous souvenez, au début du mouvement, quand il y a eu les premières manifestations à Paris, c'était la peste brune, c'est des factieux, c'est l'ultra-droite et l'ultra-gauche réunis. C'était l'analyse du gouvernement au début. Donc ils avaient traité le mouvement par le mépris, dès le début, en considérant du coup il n'y aurait pas d'autres développements et que ça suffirait. Pas de chance, le mouvement s'est amplifié, et surtout, et c'est ça le plus important, il a gagné la sympathie des Français. 80% de sympathie, voire plus en novembre-décembre.
Alors 55% selon le sondage...
Voilà, ça a un peu baissé, mais c'est toujours majoritaire. Et alors pourquoi, en revenant... Donc ensuite, Emmanuel Macron, dans la chronologie, lâche ses plus de 10 milliards d'euros en mesure de pouvoir d'achat. Et là, de façon incompréhensible, on a l'impression que du coup, il y a un retour à l'analyse de départ en disant, de toute façon, c'est des factieux qui veulent renverser le gouvernement, alors même que la sympathie pour le mouvement est toujours majoritaire. C'est à n'y rien comprendre, uniquement sur un plan stratégique, c'est franchement à n'y rien comprendre.
On a répondu aux attentes des Gilets jaunes et ceux qui continuent à
manifester. Oui, mais je pense qu'on n'a pas répondu aux attentes, l'attente profonde de la crise. C'est pas seulement une crise de pouvoir d'achat. Les gens qui sont sur les ronds-points ne disent pas simplement, on veut de l'argent tout de suite. C'est une crise de la représentation. C'est une crise de la démocratie. C'est une crise du lien social aussi. Ce sont de multiples crises, l'attente profonde dans le pays. C'est pas que de la faute d'Emmanuel Macron, loin de là, hein. On paye évidemment des décennies politiques, mais toutes les crises latentes, toutes les crises profondes, tout le malaise, toutes les angoisses du pays qui se cristallisent dans ce mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron pour l'instant n'y a pas du tout répondu. Et je doute que ce soit le grand débat national, surtout s'il est organisé et canalisé par le gouvernement, qui y répond.
Éric Scholl, on n'a donc pas fini avec ce mouvement des Gilets jaunes.
On pensait que quand on regarde les courbes de mobilisation, on allait plutôt vers la fin, mais cette fin, elle est aussi radicalisée. Et peut-être que ces mots de Benjamin Griveaux, ils sont inutiles dans le sens où on y a un moment un peu compliqué pour le gouvernement qui consiste à aller vers ce débat national. Et il ne s'agit pas d'irriter toutes les parties au moment vers le débat national.
Et il met de l'huile sur le feu, là.
Il en met un peu, mais en même temps, en face aussi, il y a de l'huile sur le feu. Il faut quand même regarder les choses. On a bien vu les provocations qui ont pu être faites de part et d'autre cette semaine. Pourquoi ? Parce que de part et d'autre, on a compris, et surtout d'ailleurs de la part des Gilets jaunes, l'importance de la médiatisation de l'image, de l'utilisation de l'image. Ils ont raison, ils sont aimés. Au gouvernement de faire aussi attention pour rentrer, et c'est là où la chose la plus importante, c'est rentrer dans ce tunnel qui va permettre de faire ce débat. Sinon, le débat, il est fichu. Si on arrive aujourd'hui complètement où on dit il n'y a rien à négocier, ça sert à rien d'aller débattre.
Sommes-nous au bout du tunnel ? C'est la bonne question qu'on va continuer à creuser ensemble. Mais il est 20h40, toute l'info avec Augustin Arrivé.
Le gouvernement se prépare à l'acte 8 des Gilets jaunes demain avec des appels à des mobilisations lancés sur les réseaux sociaux. Pour de nombreuses villes françaises, les musées bordelais seront de nouveau fermés par sécurité demain. À Paris, deux itinéraires ont été déclarés en préfecture. 4000 agents des forces mobiles seront déployés sur tout le territoire. Tension diplomatique en Amérique latine. Un groupe de 14 pays annonce ce soir ne pas reconnaître la réélection de Nicolas Maduro à la tête du Venezuela. Baptisé le groupe de Lima, il comporte aussi le Canada. Nicolas Maduro doit entamer son deuxième mandat jeudi prochain. Le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau est aujourd'hui un lieu de mémoire. Sa direction signale aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de visiteurs qu'en 2018. 2 152 000 personnes sont passées par là l'an dernier. Le site polonais remarque que 80% d'entre eux ont fait la visite avec un guide éducateur. Aucune forme écrite ni aucun outil électronique ne remplacera un contact humain pour une visite si difficile. Voilà pour le communiqué. Christine de Rivoire avait reçu le prix Inter Allié en 1968 pour son roman Le Petit Matin. L'écrivaine vient de mourir. Bernard Pivot parle de roman audacieux, vif, tendre, écrit avec le panache de la liberté. Elle était également scénariste. On lui doit entre autres La Mandarine avec Annie Girardot, réalisée par Édouard Molinaro. À 97 ans, elle était toujours membre du jury du prix Médicis. Et puis dans un quart d'heure, maintenant, le coup d'envoi de Nantes. Châteauroux, première affiche des 32e de finale de la Coupe de France, c'est du football. On suivra dans le même temps Grenoble-Strasbourg au Stade des Alpes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Deux rassemblements de gilets jaunes pour demain ont été officiellement déclarés auprès de la préfecture de police de Paris. Franck Tapiro, ça veut donc dire qu'on n'en a pas fini avec ce mouvement?
Ah non, mais c'est une série, Netflix pourrait en faire d'ailleurs de très 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 nombreuses saisons.
Donnez-leur des idées en plus.
Mais pourquoi? Mais c'est extrêmement simple. Vous savez, ils étaient invisibles, ils sont devenus visibles avec leur gilet fluo. Ils étaient totalement inaudibles, ils sont devenus audibles. Et malheureusement, grâce à une violence qui est devenue consubstantielle au mouvement, qu'on le veuille ou non, même s'ils l'ont pas provoqué, on peut pas dire qu'ils s'en plaignent vraiment, puisque la violence, sans la violence, on ne parlerait plus des gilets jaunes aujourd'hui. C'est clair. Et je crois que d'ailleurs la déclaration de Benjamin Griveaux parle de ça, et elle est aussi en ligne avec la nouvelle posture et le positionnement du chef de l'État depuis sa dernière intervention. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de reprendre la main. Il a une nouvelle posture qui est reprendre le leadership. Je suis le chef de l'État, je suis debout, j'ai écouté, maintenant je me lève, j'avance, je continue à me remettre en marche finalement, et j'ai besoin de me donner de l'autorité. Pourquoi? Pour rassurer aussi certains Français qui, parce que c'est bien d'avoir des sondages en disant 80% des gens soutiennent les gilets jaunes, mais qui ne peut ne pas soutenir les gilets jaunes dans la souffrance, dans ce qu'ils vivent, etc.
C'est de la
mais
compassion.
J'aimerais bien savoir combien de ces 80% soutiennent les actes de violence. Et là, je peux vous dire, je ne l'ai pas vu ce sondage. Je l'attends. Pour moi, il est à moins de 10%. Parce qu'il faut être fou pour soutenir la violence des gilets jaunes. Aurais-vous... En revanche, qu'il y ait plus de 80%, c'est normal. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Benjamin Griveaux aujourd'hui est complètement en ligne avec le chef de l'État. Je dois reprendre la main, ça veut dire reprendre de l'autorité et assurer la sécurité des concitoyens. C'est normal, c'est plutôt rassurant. Ce n'est pas contre les gilets jaunes, c'est contre les débordements des gilets jaunes. On va dire qu'ils seraient tentés à devenir les nouveaux zadistes.
Aurélie Trouvé, la violence des gilets jaunes, elle est légitime?
Moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est l'escalade dangereuse qui a été orchestrée par le gouvernement. Quand on dit la veille, par exemple, d'une manifestation, attention, ils sont venus pour tuer. Et je voudrais reprendre l'interview qui a été faite dans Le Monde de Fabien Jobard, qui est directeur au CNRS, directeur de recherche, qui dit que les répressions policières n'ont jamais été aussi importantes que depuis mai 68. Et il faut bien voir quand même que c'est des dizaines de personnes qui, depuis quelques semaines, ont perdu une main, un œil, du fait des tirs de flashball, des tirs de grenades lacrymogènes. Ce sont aussi 5000, sur le plan judiciaire, 5000 gardes à vue. Ce sont 200 et quelques manifestants en prison.
C'est pas justifié pour vous, vu ce qu'on a vu.
Et donc, ce que je dis ici, c'est que c'est une répression policière qui n'a jamais été vue
à ce degré-là. Est-ce que la violence des gilets
jaunes pour vous?
Et je finis là-dessus. Il ne s'agit pas de mettre en cause les policiers, bien entendu. Il s'agit de mettre en cause les armes dont ils disposent et les ordres qu'on leur donne. Et aujourd'hui, il ne faut pas minorer, parce que c'est allé jusqu'à un décès début décembre, la violence aussi qui a côté qu'il y a du côté, je dirais, du gouvernement à travers ses paroles et du côté des forces policières, et parce que ça enclenche une escalade qui, de mon point de vue, est très dangereuse.
Et les deux motards au sol,
Pour finir, ce sont aussi la systématisation des interpellations dites préventives, qui est en fait, et ça c'est souligné par énormément de sociologues, de juristes, etc., qui est en fait une remise en cause du droit de manifester.
Non, on a bien compris, Aurélie Trouvé, on va pas vous mettre d'accord, mais d'ailleurs, c'est pas le but.
Deux motards, pratiquement. Heureusement qu'il y en avait un qui a réussi à remonter sa moto, ça vous a pas choqué?
J'aimerais qu'on garde un petit peu de temps pour se garder de généraliser
à tous les gilets jaunes les actes de violence.
On va continuer à parler des gilets jaunes, peut-être à travers le dernier thème, parce que je voulais qu'on garde un petit peu de temps pour parler de Michel Houellebecq, non pas d'un phénomène littéraire, mais d'un phénomène tout court, le phénomène Houellebecq. La sortie de ce nouveau livre est un événement qui dépasse de très loin la littérature. Pour preuve, ce passage d'ailleurs, pour le moins anecdotique, où le héros du livre déclare que Niort est la ville la plus laide qu'il ait jamais vue. Le maire de la ville a été obligé de monter au créneau. Écoutez, il s'appelle Jérôme Baloge.
C'est un roman et c'est Houellebecq. Houellebecq, il a toujours vécu entre l'Irlande et les grands ensembles de l'Est parisien. Donc je suis pas sûr qu'il connaisse Niort. Et puis surtout, c'est un roman, donc il faut se rentrer dans les romans sombres de Houellebecq. Et puis surtout, on a envie de l'inviter à venir nous voir. Parce que regardez le soleil, regardez cette ville. Ceux qui connaissent Niort savent que c'est aux antipodes de ce roman.
Voilà, c'est un roman, donc, mais c'est même un peu plus. Pourquoi cet engouement pour Houellebecq, Louis Alter?
Parce qu'il touche juste. Houellebecq, il tombe juste. Quasiment à chaque fois, mais depuis le début de sa carrière, il
pas
faut relire.
Pas forcément sur Niort,
tous ces romans. Alors sur Niort, je sais pas. Voilà. Alors, en... Non, mais c'est la liberté d'expression. Il a le droit de dire que Niort est moche, et puis le maire de Niort a le droit de dire que sa ville est jolie. Voilà. Fin du débat.
Quel
c'est
but
pas
pour Niort,
c'est
final,
pas.
Hein.
C'est leur... formidable. Enfin, c'est un peu plus formidable.
Et pour Welbeck aussi. Ouais, on n'a jamais autant parlé de Niort depuis les Chamois Niortais en Coupe de France il y a 15 ans.
Mais c'est pas un roman sur Niort. C'est un roman qui est d'une actualité. Alors en plus, il l'a écrit avant l'été, donc c'est ça renforce encore ses capacités prophétiques, visionnaires. On emploie le terme qu'on veut. Mais je citer juste un passage, par exemple, de Sérotonine. Il parle de l'agriculture. Son héros est un ingénieur agronome. Et il analyse ce qui se passe avec les normes européennes, avec la politique agricole commune et avec ce qui se passe dans l'agriculture française. Il dit ce qu'il se passe avec l'agriculture en France. C'est un énorme plan social, mais un plan social secret, invisible, où les gens disparaissent dans leur coin sans jamais donner matière à un sujet pour BFM. Mais on est c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'agriculture française aujourd'hui, ce sont des gens qui souffrent, qui bien gagnent sûr. Au moins du SMIC, alors que des gilets jaunes sont en train de manifester pour gagner un peu plus que le SMIC, pour gagner 2000, 3000 euros. Mais zéro. Les agriculteurs qui n'ont même pas le temps d'aller manifester parce qu'ils doivent s'occuper de leurs bêtes, qui doivent s'occuper de leurs champs, ils gagnent moins que le SMIC. Il y en a qui se suicident, il y en a qui ferment leur exploitation, il y en a qui ne pourront pas transmettre tout le labeur d'une vie. Et là, Welbeck, il ne parle pas que de ça dans ce roman, mais il parle notamment de ça, mais il tombe exactement juste. Et c'est vrai que c'est une réalité qui est aussi, dont on ne parle pas assez dans les médias, peut-être trop parisien, on a tous une autocritique à faire comme d'habitude. Mais là, encore une fois, Welbeck, il tombe juste. Donc tant mieux s'il y a un engouement.
Éric Scholl, Michel Welbeck est plus un. Enfin, le livre de Michel Welbeck est plus un outil sociologique qu'un.
Mais c'est un auteur, c'est un écrivain. C'est un formidable livre. C'est puissant, c'est poétique, c'est beau. Moi, j'ai adoré, adoré. Et je ne suis pas le seul, parce qu'en France, ça va être un phénomène incroyable, mais à l'étranger aussi. Et nous, à Courrier International, on est en train de préparer un dossier sur la fascination qu'exerce Michel Welbeck à l'étranger. Rendez-vous compte, lorsqu'il sort un bouquin, en Allemagne, en partout, Italie, ouais. En Espagne, là on attend l'Espagne, parce que une partie du livre se déroule en Espagne, donc on va voir la réaction de la presse espagnole. Mais il fascine parce que d'abord, il y a
Soumission
cette
écriture. Soumission a été vendue à 500 000 exemplaires en Allemagne.
Hein. En Allemagne, incroyable. Et donc là, l'Allemagne se prépare. Le livre va sortir jusque dans quelques jours en Allemagne. Il va y avoir ce même phénomène. Parce que on voit en lui ce côté prophétique aussi, effectivement. Ce côté d'autodérision. Il y a du style chez Welbeck. Il y a cette autodérision qui raconte la civilisation, ce déclin de la civilisation occidentale. Il le raconte très bien. Il le raconte évidemment avec ses lubies. Alors, il y a beaucoup de sexe, mais il y a un sens de l'observation qui est incroyable sur les agriculteurs cette fois-ci, mais sur énormément de sujets, on a l'impression de le vivre, on rit, on est transporté. Voilà, moi j'ai adoré ce Welbeck.
Je suis pas sûr qu'Aurélie Trouvé soit exactement du même avis que vous, Éric Scholl, mais on va l'écouter dans deux petites minutes, juste
et
après
pourtant,
l'info.
Et pourtant, c'est il est
puisqu'il est 20h50, Éric Scholl.
C'est l'info de l'antisystème.
On puisse t'arriver.
Les Gilets jaunes ont à nouveau lancé des appels à des rassemblements dans toute la France pour demain, journée voulue comme l'acte 8 du mouvement. Pour ce qui est de Paris, deux itinéraires de manifestation ont été déclarés en préfecture. Le gouvernement a prévu de mobiliser 4000 agents des forces mobiles dans tout le pays. Le ministère de l'Intérieur donnait ce soir des détails d'un autre dossier, le plan d'action franco-britannique de lutte contre la traversée de la Manche par des migrants. Des patrouilles supplémentaires seront déployées dans les ports et sur les plages du Nord. 504 hommes et femmes ont tenté cette traversée en 2018, pour la plupart des ressortissants iraniens. 170 emplois menacés à Boulogne-sur-Mer. L'entreprise de dentelle Noyon, placée en redressement judiciaire à la demande de la direction. Cette période d'observation durera 6 mois. Les dirigeants annoncent déjà envisager un plan social. Cette société avait été rachetée il y a 2 ans. Carlos Ghosn devrait reparaître mardi prochain. C'est la date fixée d'une séance qu'il a lui-même demandée et que le tribunal de Tokyo a autorisée cet après-midi. Le PDG de Renault souhaite obliger le procureur à clarifier les raisons de sa garde à vue. Un interrogatoire sans cesse prolongé depuis son arrestation en novembre. Il est soupçonné là-bas de fraude fiscale. Un an après, c'est un soir de revanche en Coupe de France de football. Grenoble reçoit à 20h55 Strasbourg, le même club qui avait éliminé les Isérois l'an dernier dans cette compétition. C'est le début des 32e de finale avec également Nantes-Châteauroux.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et sur Amazon, cet après-midi, le livre Sérotonine était déjà classé numéro 1. 320 000 exemplaires tirés par l'éditeur Flammarion. C'est évidemment un phénomène de librairie. Aurélie Trouvé, ce livre, comme nous le disait Louis Althusser, se déroule dans une France rurale, une France qui souffre. Ça doit vous plaire.
Alors, bon, c'est vrai que je suis. Par ailleurs, je suis ingénieur agronome de formation comme l'auteur. Et puis que je travaille.
Écoutez,
comme le narrateur. Et le narrateur, pardon.
J'espère que vous avez le meilleur moral tout de même.
Et alors, par ailleurs, il parle d'un sujet sur lequel je travaille, qui est la politique agricole commune. Et il a quand même l'art de rendre. Parler de sujets qui, a priori, sont totalement arides. Je peux vous dire, quand je fais un article sur la PAC, quand même, dans le titre, quand on met PAC, ça attire pas beaucoup. Et pour le coup, j'ai pas pu encore lire le bouquin, je fais pas partie de ceux qui l'ont reçu.
Des happy few comme Eric Schoen.
Avant la sortie, voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant, et de ce que j'en ai lu, qu'il aborde ce sujet. Et c'est vrai qu'il a l'art, en tout cas, Michel Houellebecq, de sentir, d'être dans l'air du temps, quoi, et de sentir les sujets. En l'occurrence, on a des élections européennes dans quelques mois, et à travers la PAC, de quoi il parle aussi? Il parle d'une Europe qui, en fait, est de plus en plus néolibérale, et donc cette politique agricole européenne qui est de plus en plus affaiblie, qui ne protège plus les paysans, mais qui également reste aussi une PAC qui soutient quand même les plus grandes exploitations, dont les aides, aujourd'hui, c'est des agriculteurs qui sont sous perfusion d'aides parce que les prix sont, la plupart des prix agricoles sont bien en dessous des coûts de production. Donc, des prix qui sont de plus en plus... Avec une mise en concurrence de plus en plus forte, je dirais. En tout cas, dans ce bouquin-là, je pense qu'il pose un vrai sujet qui est la déconnexion entre une Europe de plus en plus néolibérale, mais aussi productiviste en ce qui concerne la PAC, et des paysans qui souffrent. Et puis, je me tourne vers le restaurateur qui n'arrive pas aussi à répondre aux réponses, à répondre à la société, à ses demandes de qualité, d'environnement et d'emploi. Parce qu'on perd énormément d'emplois agricoles aujourd'hui.
Je vais répondre à Aurélie, mais je suis venu avec parce que je suis libraire. Et je suis libraire et on avait à signer, d'ailleurs ils font de la com, avant de parler du livre de Houellebecq, ils font une com incroyable parce qu'on n'a pas le droit de le vendre. C'est un peu comme le Beaujolais avant minuit. Alors moi j'ai l'avantage, c'est que j'ai une librairie qui est ouverte jusqu'à 2h du matin. Mais on n'avait pas le droit de le vendre, mais j'avais des gens qui avec le thé voulaient lire avant. Donc on leur a passé pour qu'ils le feuillettent et tout. C'est vraiment un phénomène. C'est-à-dire qu'ils ont un plan com qui est énorme. C'est-à-dire à minuit 3, au minuit 1, il y avait déjà plein de bouquins qui se vendaient.
Bah, c'est Franck Tapiro qui les conseille.
Sûrement, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, parler d'un phénomène Houellebecq, ce qui est intéressant, c'est que, à la manière d'un grand comme Zola qui décrivait la société du 19e, là on est un personnage, excusez-moi pour les journalistes, mais qui va aller au fond de la société pour l'examiner, pour la regarder, pour la décrypter, et donc qui nous rend ce truc du fond de la France, du fin fond, avec les gens, avec leurs problèmes sociaux, etc. Et c'est ça qui intéresse les gens. Même si c'est pas très sympa, que ce soit pour les villes de New York, parce qu'il y a d'autres villes, moi j'habite à côté d'Agen, c'est pas super beau non plus, on n'aime pas trop, mais en fait ils aiment bien quand même ça, ils aiment bien cette manière de regarder, de se regarder, même s'il est provocateur, et même s'il a un côté des fois d'exagération, on pense sa parole comme un oracle, alors qu'en réalité, il peut se planter. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'il dit toujours. Maintenant, il dit des choses que les gens n'osent pas dire. Par exemple, il dit, ouais, super, heureusement qu'on a Trump, parce que sans Trump, on pourrait pas se défendre avec l'Europe. Donc, il a ce côté que font plus les journalistes, que font plus les gens. Il a ce côté
quand même une démarche d'invention. Comment se fait-il que, finalement, on le prenne plus pour un sociologue que pour un écrivain?
Parce qu'il a un sens du timing hors du commun. Ça fait plusieurs fois qu'il sort à chaque fois des bouquins au bon moment, sur le bon tempo. Il a un sens du tempo incroyable, que non plus...
Soumission, il sort Soumission, raconte la prise de contrôle de la France par les islamistes, on va dire un petit peu radicaux, le jour des attentats d'Archie Hebdo.
Et le tempo, et on sait très bien que le tempo, le sens du timing, c'est en général les grands politiques qui ont cette intuition-là. Ils ne l'ont plus. Aucun ne l'a. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Houellebecq apparaît comme finalement une vigie, un écrivain romancier bien sûr, mais plus que ça. Les gens vont le dire, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, comme finalement celui qui a le mieux compris la réalité, celui qui a le mieux compris ce qui est en train de se passer sur le terrain, celui qui finalement a beaucoup plus un sens sociologique clair, mais politique aussi.
Houellebecq président, quoi.
Houellebecq, le phare peut-être de Français qui, à force d'écouter, et pas seulement cette chaîne info, mais tous les médias, finissent par plus rien y comprendre, et quand ils lisent Houellebecq...
Quand ils écoutent France Info, ils y comprennent, je peux vous le dire.
Et quand ils lisent Houellebecq, tout d'un coup, ils ont l'impression non seulement de comprendre, et que c'est quelqu'un qui a écrit par anticipation exactement ce qui est en train de se passer. Comme
non,
un
mais surtout, c'est qu'il se voit, les gens. C'est Houellebecq, il est pas. C'est Houellebecq, il y va à fond. C'est-à-dire qu'il ne s'emmerde pas avec les trucs. Voilà, il vous dit, si ça le fait chier, il le dit. C'est ça la différence.
Il s'emmerde pas, d'ailleurs. Il s'emmerde pas, il a raison. Mais c'est un formidable écrivain. La revue, il y a une revue aux Pays-Bas qui s'appelle Grenu Amsterdam, qui est une belle revue intellectuelle et qui vient de faire sa une sur Houellebecq en disant notre nouveau prix Nobel de littérature. Il n'y en a pas eu, on le sait, l'année dernière. Merci en 2019, il lui faut le prix Nobel de littérature. Donc comme quoi, c'est un écrivain et il a une aura, mais à l'étranger, incroyable. J'ai appris, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'en Russie, l'ensemble de Houellebecq est accessible, traduit en russe. On le trouve partout sur Internet, traduit en russe. Vous voyez, allez, il est partout.
Et ce sera notre mot de la fin. Merci les informés, c'est terminé pour ce soir. Les titres de vos journaux, Marianne, qu'est-ce qu'il y a à la une cette semaine ?
Comment les États-Unis, infiltrent nos banlieues, une enquête sur une politique d'influence.
Courrier international, Eric Scholl.
Alors, nous préparons pour la semaine prochaine un formidable dossier sur Houellebecq et son influence à l'étranger. Pourquoi il est aussi successful, si je puis dire. Il déteste ce mot.
Et dimanche, vous retrouverez l'ami Pierre Neveu pour les informer du week-end. D'ici là, portez-vous bien. L'info continue sur France Info.